On a déjà parlé cette année dans cette série de conférences de l'université. La première conférence était donnée par Bernard Begault, qui nous a parlé de l'université, je dirais, du point de vue un peu exalté d'un président. Moi, je vais vous donner le point de vue du soldat lambda, de celui qui fait le boulot. Alors, on m'a demandé, oui, dans l'adresse, là, j'ai pas vraiment dit, j'ai même pas dit Bordeaux, Et j'ai surtout pas dit, UFR de blablabla, laboratoire de institut de université Bordeaux 1, 2, 3, 4. Bon, à Paris, il y en a 24 ou je sais pas combien. Pourquoi ? En France, on a plutôt l'habitude d'avoir des adresses de ce style. Laboratoire de... un truc complètement fantaisiste, avec un sigle plus ou moins obscur, qui change d'ailleurs en moyenne tous les 5 ans. Ça fait 15 ans que je suis en France. Je pense qu'on en est au quatrième nom pour le laboratoire institut blablabla. L'an prochain, le nom sera encore différent, ou dans 2 ans. Et puis on a un beau sigle avec qui fleure bien le soviétisme, UMR 1, 2, 3, 4, 5, numéroté dûment à Paris, dans les ministères, etc. Alors que dans tout pays autre, j'ai failli dire civilisé, vous avez une adresse comme ça, Faculté de chimie, Université de Bordeaux. À l'université de Heidelberg, depuis 150 ans, il y a la faculté de chimie. Elle n'a jamais changé de nom. Elle n'est pas une année faculté de chimie nano machin truc pour devenir l'année prochaine faculté de bio blablabla. C'est un symptôme. C'est un symptôme que je vous montre là. Mais nous verrons que ce symptôme dit quelque chose sur... l'incertitude sur le manque de conception qui fait que l'université française, et donc l'université et la recherche universitaire, sont empêtrées dans un nombre de problèmes incalculables, et qui fait que, vous verrez, malheureusement, mon pronostic sera extrêmement négatif. Bon, alors... on pourrait croire que mon titre doit quelque chose à Honoré de Balzac, il n'en est rien. Il doit quelque chose à ce livre que je ne saurais trop recommander, Le grand gâchis, splendeur et misère de la science française, qui est basé sur une série d'articles qui ont été publiés dans 2 fascicules de la revue La Recherche, par Olivier Postel-Vinet, qui a aussi un blog. Alors, ce livre fait un bilan, je dirais, numérique, quantitatif de la recherche française. C'est-à-dire, il regarde le nombre de publications, le nombre de citations, le nombre de brevets, les fameux citation index, etc., etc., et compile un grand nombre d'indicateurs, et chacun de ces indicateurs est certes critiquable, mais tous les indicateurs, tout le faisceau des indicateurs va dans la même direction et dit une seule chose, la science française est en perte de vitesse, non seulement mondialement, ce qui est à peu près normal vu qu'il y a de grands pays émergents comme la Chine, l'Inde, mais par rapport à tous les pays comparables, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, la Scandinavie, que voulez-vous. Donc, un diagnostic déjà quantitatif très très négatif. Bon, le deuxième livre dont je voulais vous parler, et qui servira un peu de guide aussi à cet exposé, c'est ce livre publié récemment que j'ai ici, dont nous avons parlé aussi lors de l'exposé de Bernard Begault, L'université, la grande illusion. Alors, bon, voilà le livre, et j'ai pris comme essentiellement fil conducteur quelques citations que j'ai trouvées dans ce livre et que je vais vous lire. La structuration même de l'enseignement supérieur fait obstacle à la réalisation de l'idée d'université. Et justement, cette idée d'université, ça sera très central à ce que je vais essayer de vous dire. Le principe de solidarité de l'enseignement et de la recherche est suspendu. On verra ce qu'il en est de ce principe de solidarité de l'enseignement et de la recherche. Et on verra qu'essentiellement, l'université française n'a jamais réalisé et n'a jamais cherché à réaliser ce principe. Bon, un autre article résume la chose plus simplement en disant « il n'y a pas d'idée d'université en France ». Plus prosaïquement, et ça on touche au problème université-école, l'État français a fait le choix non pas d'une université libre et forte, mais d'une université asservie et faible. Historiquement, l'État français n'a jamais fait confiance aux universités pour former ses petits et ses grands soldats. L'État français, depuis la royauté, a voulu contrôler la formation, a voulu contrôler l'éducation de ses serviteurs fonctionnaires. C'est pour ça que nous avons des écoles, chose qui n'existe dans aucun autre pays. À part, peut-être, en Union soviétique, où il y avait l'école du parti. On sait ce qu'il en est advenu. Bon, et puis un article que je ne saurais trop vous recommander aussi, l'article d'Antoine Compagnon dans ce même livre, « Pourquoi la France n'a pas d'université ?» où, bon, essentiellement, on revoit tous les arguments. Et le dernier article dans ce livre, bon, ben, si vous voulez rire jaune, même rire très très jaune, vous lirez le carnet de notes de Sigismond Pnin, professeur de droit à l'université de Zbrodnia III. Ceux qui ne savent pas où est la Sildavie, on peut s'informer soit en lisant Tintin, soit en regardant Wikipédia. Bon, donc voilà à peu près ce qui sera le contenu de cet exposé. Nous allons remonter relativement loin en arrière, nous allons remonter en 1080. Après une petite excursion en 1080 qui montrera que même à l'époque, l'Europe n'était pas toute seule au monde, pas plus ni pas moins qu'aujourd'hui, on verra bien quelles sont les idées, quelle est l'idée de l'université européenne ou des universités européennes, parce qu'on verra qu'il y a plusieurs archétypes. Et on verra que l'université moderne, the Modern Research University, est née essentiellement en Prusse vers 1910. Alors tout le monde pense la Prusse, les casques à pointe, etc., etc. J'espère vous ôter un peu cette idée de la tête. On verra qu'il existe une charte des universités européennes qui s'appelle Magna Carta Universitatum, qui a été signée pour les 900 ans de l'université de Bologne, donc en 1988. Et on regardera quelles sont les stipulations majeures de cette charte et ce qu'on en fait en France. Et puis ensuite, eh bien, on verra un peu en détail le ou les problèmes français. On verra si c'est mille petits ou un gros. Et puis comme cette série de conférences est intitulée « Demain, après-demain », eh bien, on fera des perspectives qui, je crains, ne seront pas très optimistes. Et puis, il y aura un dernier chapitre qui vous dira ce que vous n'avez pas entendu aujourd'hui, parce que vous verrez qu'un bon nombre de choses que l'on dit d'habitude quand on parle des réformes universitaires ou de ce qu'il faudrait faire, eh bien, je n'en parlerai pas. Donc, commençons en 1080. Eh bien, en 1080, le Japon entame, je dirais, la phase finale de sa plus grande époque, qui est l'époque Heian, qui est l'époque qui a formé un Japon qui est assez différent du Japon que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas de cérémonie de thé, il n'y avait pas de tatami, il n'y avait pas de samouraï. Néanmoins, c'est la grande époque du Japon, celle de la grande littérature japonaise. Et pour illustrer ça, donc l'empereur Shirakawa. La Chine aussi, en 1080, est à une époque phare de son histoire. C'est la Chine des Song, de la dynastie des Song. La Chine est technologiquement très avancée. Elle produit à cette époque plus de métal fondu, donc de fonte, dirons-nous, que l'Angleterre au début de la révolution industrielle, mettons avant 1800. La Chine est une grande puissance intellectuelle, commerciale, technologique. Donc si on parle de la Chine montant aujourd'hui, c'est faux. La Chine remonte, elle ne monte pas. Elle va avoir la place qui historiquement est la sienne. Et ça c'est quelque chose qu'en Europe on a un peu tendance à oublier. Mais il n'y a pas que les grands pays. 1080, c'est aussi l'époque des grands empires khmers. Angkor se construit. Le grand temple d'Angkor n'est pas encore terminé, se construit. Ici, le roi Suryavarman II, sur une des panneaux du grand temple d'Angkor. Donc là aussi, un grand empire. le sud-est asiatique allant de ce qu'est aujourd'hui la Birmanie jusqu'au Vietnam et aux frontières chinoises. Bon, et chez nous, dans la vieille Europe, qu'est-ce qui se fait? Ou peut-être pas encore vieille, je ne sais pas ce qu'en penserait M. Rumsfeld. Eh bien, 1077, bon, pour tous ceux qui ont fait leurs études en Allemagne, ils se rappellent Canossa, hein, l'empereur à genoux devant le pape. Le roi de France, hein, Philippe Ier, dont je n'avais jamais entendu parler beaucoup avant de faire les recherches pour cet exposé. On construit Cluny, donc en France aussi, c'est en Europe aussi, c'est une époque de grand développement culturel. Hein. C'est le roman triomphant, les grands manuscrits romans, les grandes églises romanes. Le début des troubadours, hein, chez nous ici en Aquitaine, Guillaume est dans ses petites culottes. Et en 1088, c'est là que ça commence à nous intéresser, eh bien les écoles, les institutions d'enseignement de Bologne font une petite révolution, reçoivent ou conquièrent, on ne sait pas très bien, des chartes, et établissent ce qu'on appelle un studium générale. Donc, réunit les diverses filières, dirons-nous en jargon français moderne, d'études pour former un tout que nous appellerons plus tard université. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette université? Eh bien, c'est une très grande autonomie juridique. Cette autonomie juridique, au Moyen-Âge, peut aller très très loin. Le recteur peut avoir droit de vie et de mort sur les étudiants. C'est pour ça que dans certaines universités traditionnelles, les étudiants prêtent serment sur la masse d'armes du bedeau. Vous allez à l'université de Brune, par exemple, en République tchèque, il y a au début du semestre une cérémonie où les étudiants, en général une étudiante, mignonne, pour tout le monde, prête serment sur la masse d'armes. Hein? Voilà l'origine de ces traditions qui, je pense, à nos étudiants, ne diraient absolument rien. Très important aussi, liberté d'enseigner et d'étudier. L'Église n'a pas droit de regard sur les programmes, dirons-nous dans le langage moderne. Et troisième pilier, je dirais, de ces chartes, qui pour les gens de l'époque était peut-être le plus important, validité universelle des diplômes. Un diplôme décerné par l'Université de Bologne, en droit, qui était la faculté forte, maîtresse, dominante à l'époque de Bologne, était valable partout en Europe. Il n'y a pas besoin d'accord entre États, de ECTS, de machin, de trucs, de chambre syndicale des médecins, etc. Hein? Et sinon, les étudiants et les professeurs vous spétaient et ils votaient avec leurs pieds et ils allaient voir ailleurs. Les étudiants et les professeurs, pas les étudiants bloquant la faculté, ou pas 2% des étudiants bloquant la faculté avec la bénédiction du président pour empêcher 98% de travailler. Hein? Les étudiants et les professeurs votaient avec leurs pieds, et on connaît un tas de telles sécessions. En 1204, ils sont partis à Vicenza, en 1215 à Arezzo, en 1222 à Padova, et en 1228 à Vercelli. Ça devait chauffer à l'époque, hein? Ça ne semble pas très calme. Et certaines de ces sécessions, par exemple celle en 1209 où les gens d'Oxford sont partis pour fonder Cambridge, ont plutôt bien marché, je dirais. Bon, alors, voilà, vers 1088, hein, la date n'est pas très très sûre, Bologne, mais ça a frappé les esprits. Et durant tout le Moyen-Âge, les universités, toutes les fondations des universités, ou beaucoup de fondations d'universités, se réfèrent à Bologne. Par exemple, Montpellier, hein, qu'à tel endroit soit établie une université dans laquelle les maîtres enseignent et les étudiants étudient librement. Les maîtres enseignent et les étudiants étudient librement. Pavie, par le roi de Bohême, Charles IV, grand fondateur d'université, privilège, liberté, immunité, etc., etc., dont profitent les Paris, Bologne, Oxford. Cracovie, même chose, on se rapporte à Bologne et Padoue. Würzburg en Allemagne, tout plein de références à Bologne. Bologne est le prototype, Paris l'est dans une certaine mesure aussi. C'est le modèle, l'université ne peut être, et qu'elle soit fondée par un pape, par un roi, par un empereur, ne peut exister que si elle est indépendante. Alors ça se gâte un peu, hein. Si on regarde des documents un peu plus tardifs, Iéna, Genève, Leiden ne parlent plus de cette liberté. Pourquoi? Eh bien, réformation et contre-réformation sont passés par là. Il dit qu'Alvin et les jésuites régulaient beaucoup sur la pureté de la doctrine qu'il fallait inculquer aux petits. Mais, si on va 150 ans plus loin, on tombe sur les universités fondées pendant ce que je dirais l'âge des Lumières. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ce n'est pas une époque très très féconde en fondation d'universités, mais il y en a une, Göttingen, qui plus tard a dominé les sciences. Un jour, on parlait que des mathématiques avec Gauss et Hilbert, de la mécanique quantique à la langue allemande, à la médecine. Le 19e siècle a été, fin 19e siècle a été totalement dominé par, l'influence intellectuelle de l'université de Göttingen. Mais cette université est fondée en 1736 par l'électeur de Hanovre, qui est en même temps le roi d'Angleterre, hein, un ignoble roi absolutiste, qui dit que tous les professeurs ainsi que les maîtres d'enseignement et d'exercice, quel que soit leur nom, titre, donc professeur et autres enseignants, déjà nommés, donc parce qu'il existait déjà une institution à cet endroit, ou à nommer à l'avenir, sans exception aucune et éternellement une liberté entièrement illimitée, vollkommene unbeschränkte Freiheit, on déguste. Un roi d'Angleterre, monarque absolu. Bon, je vous signale que toutes ces citations viennent d'un livre que j'ai ici aussi, édité par une trentaine d'universités européennes qui se forment ce qu'on appelle the Coimbra Group, qui sont des universités donc particulièrement intéressées par leur histoire. Je laisse ce livre-là si vous voulez le consulter après, c'est un très beau livre. Et puis on tombe dans la catastrophe. Édit du 17 mars 1808, j'ai appelé ça la naissance du mammouth. Décret impérial qui dit, entre autres, c'est long. Alors, si les chartes que je vous ai citées avant, elles tenaient en général sur une page de parchemin, grande comme ça, là, il y en a 5-6 pages, en petit. L'université, au singulier, impérial sera composée d'autant académies qu'il y a de cours d'appel. Alors, on se dit, qu'est-ce que ça peut bien avoir à voir avec le Schmilbic? Hein? Alors peut-être que Madame Pécresse maintenant et la réforme des cours, enfin j'en sais rien. Il y a autant d'académies qu'il y a de cours d'appel. Très bien. Toutes les écoles de l'université impériale prendront pour base de leur enseignement les préceptes de la religion catholique, la fidélité à l'empereur, d'où nous levons et claquons des talons, la monarchie, la dynastie napoléonienne, l'obéissance. Vous rappelez ce que disait le roi d'Angleterre, hein? Liberté entièrement illimitée. Le conseil de l'université sera composé de 30 membres. Ah, ça a l'air de les obnubiler, hein? Pas 20, ni 60. 30. Très bien. 30. Et qui ne seront pas élus par leur père, hein? Où est-ce qu'on en irait, hein? Quoi de neuf sous le soleil? Bon, voilà les têtes pensantes de l'époque. Jean-Marie-Antoine Nicolas Carita, marquis de Condorcet, qui, je pense sans le vouloir, parce qu'il était mort depuis longtemps en 1908, est quand même à la base de cette idée de centralisation de l'éducation. Alors pourquoi Condorcet a fait ça? Bien sûr pour combattre l'Église. Mais quoi qu'il en soit, Condorcet était un bon catholique, tout au moins d'esprit. Et il a cherché à combattre l'institution par l'institution. Il a essayé de combattre l'Église par la pyramide académique. Le pauvre homme ne se doutait pas que l'institution qu'il mettait à la place de l'Église allait s'avérer être encore bien pire. Un peu plus jeune que Condorcet, Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand Freiherr von Humboldt, pour les longueurs de nom, hein, ils se valent. Alors c'est le Humboldt le moins connu des deux. On connaît beaucoup plus son frère Alexandre, qui était son cadet de 2 ans, naturaliste. Et donc Humboldt, qui était présent à Paris en 1789, qui a vu la fameuse nuit du 4 août, qui a vu l'écroulement de la Prusse devant les forces napoléoniennes, avec un certain nombre d'autres hommes d'État, à amener ces réformes prussiennes. Mais Humboldt n'était pas catholique, il était protestant. Et donc son approche a été entièrement différente. Je paraphrase Max Weber ici. Hein. Son approche a été quoi? Son approche a été de dire qu'on va baser le système non pas sur le contrôle centralisé, top-down, comme on dit aujourd'hui, mais sur la responsabilité et la liberté individuelle. Premier pilier des réformes humboldtiennes. Ensuite, et pour la première fois, on a postulé ou dit clairement que la fonction de l'université est double. Que la fonction de l'université, c'est l'enseignement et la recherche. Nous sommes au début du XIXe siècle. Bien sûr, l'université du Moyen-Âge a toujours participé à la création de connaissances. Hein? Les professeurs écrivaient des manuels, essentiellement pour leurs étudiants. Les professeurs traduisaient. Hein? Rappelons-nous l'influence des sciences arabes sur toutes nos connaissances médiévales. Bien sûr que l'université a toujours participé à la dissémination et à la création de savoir. Mais ici, je pense que c'est pour la première fois qu'on dit très clairement l'université, c'est l'enseignement et la recherche. Et les deux ne peuvent être séparés. Et cette unicité, Einheit, oneness en anglais, donc j'ai traduit par unicité, elle est accompagnée d'une liberté de l'enseignement et de la recherche. Et cette liberté d'enseignement et de la recherche, dans beaucoup de pays, à l'heure actuelle, elle a rang constitutionnel. Elle est dans la Constitution. Hein? Bon, je vous cite ici quelques exemples. Bien sûr, la loi fondamentale allemande, mais la Constitution suisse, la Constitution du Japon, qui est beaucoup copiée sur des modèles allemands, et last but not least, le projet du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Bon, c'est le sort que la France a réservé à ça. Alors, unicité, liberté, autonomie. Alors là, Humboldt n'est pas très fort. Hein. L'autonomie des universités, non. Pour lui, c'est l'État qui contrôle les universités. Mais c'est un État bienveillant. C'est un État qui délègue et c'est un État qui fait confiance. Décentralisation, beaucoup. Oui, la structure politique de l'Allemagne étant telle que la centralisation n'avait aucun sens à l'époque, Humboldt a fait ses réformes en Prusse, d'autres États ont suivi plus ou moins bien, plus ou moins en ordre dispersé. On verra que par exemple l'Autriche, l'Austro-Hongrie a entièrement adapté ce modèle, d'autres États aussi. Et on crée une université modèle à l'époque qui est essentiellement le laboratoire pour tester ces principes qui est l'université de Berlin. Alors ce modèle humboldtien, eh bien, sans faire aucun discours idéologique, il marche, il fonctionne, il produit des résultats. Et le résultat, eh bien, c'est l'explosion scientifique, technologique du 19e et 20e siècle que nous observons dans ce que j'ai appelé Mitteleuropa, c'est-à-dire les pays de langue allemande, l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne. On a dit que le monde moderne est né à Vienne en 1900, ce qui est probablement vrai, de Freud à Boltzmann, etc. Ce n'est pas sans cette université créatrice et libre. Ça s'exporte. Le modèle s'exporte et il s'exporte surtout aux États-Unis. Et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Hein, les universités américaines publiques, je ne devrais pas me servir de la souris, publiques tout autant que privées, il n'y a pas nos petits gauchistes aujourd'hui pour apprendre ce message, hein, mais public tout aussi bien que privé, adopte ce modèle. Alors, bien sûr, il y a le gros fiasco de l'université allemande qui est 1933. Alors, ce serait un point à discuter, ça qui me coûterait au moins un quart d'heure. Le résultat est que cette explosion de l'université allemande a fait la richesse de l'université américaine. Hein, j'ai fait mon post-doc aux États-Unis, mon patron américain, le professeur Wolfsberg, était un réfugié qui est parti en 1939 d'Allemagne. Et il n'était pas seul dans son université, et il n'était pas les seuls dans l'université américaine. Alors, le projet Manhattan a fait le sien, hein, les efforts de guerre, etc., etc. Le résultat, c'est que ce modèle d'université, eh bien, domine totalement et la formation et la recherche, certainement dans la deuxième moitié du XXe siècle, et je pense au moins pour le premier tiers du XXIe. Au-delà, je ne sais pas. Le modèle humboldtien n'est pas adopté uniquement en Europe et aux États-Unis, mais au Japon. Les réformes de l'ère Meiji y font explicitement référence. Les grandes universités japonaises, les universités qu'on disait impériales, que les Japonais disent toujours impériales, y font tous référence. Je vous ai ici mis quelques citations, par exemple, du texte de l'université de Kyoto, Kyodai, hein, qui dit « développe son commitment, comment dire, ses obligations historiques envers la liberté académique hein, », qui sont la fondation de des libertés académiques. Et vous trouverez de tels textes dans toutes les universités, d'ailleurs autant publiques que privées. Hein. Waseda, Keio, Sophia, Ritsumeikan. Ritsumeikan étant une université d'inspiration confucéenne, Doshisha étant une université fondée par des missionnaires protestants américains, donc d'inspiration chrétienne, tous, les uns comme les autres, et les uns autant que les autres, se réfèrent très explicitement au modèle humboldtien. Et ça, je m'en suis rendu compte. Souvent, j'ai l'impression qu'en discutant avec des collègues japonais, j'ai plus d'atomes crochus qu'en discutant avec des collègues français. Chine, même chose. Hein. L'université impériale de Pékin, son fondateur fait référence explicite aux universités de Berlin, donc l'université modèle de Humboldt, et à l'université de Leipzig, parce qu'il y avait fait ses études. Là aussi, il faut se rappeler que les académies étaient soit impériales, soit privées. Donc la tradition de l'enseignement, de la formation au mandarinat, pour être correct, en Chine, est tout aussi bien publique que privée. Bon, je résume à ce point. On a donc en Europe, pour l'instant, à peu près trois archétypes. Bien sûr, ils n'existent nulle part en forme pure. Hein. Ce que je vous dis là, c'est une typisation des universités. L'ancien système qui survit essentiellement dans le système des collèges anglais, pur Oxford-Cambridge, plus ou moins fort dans d'autres universités. Bristol, par exemple, fait de nouveau explicitement référence au modèle allemand. Donc, les universités anglaises ne sont pas du tout toutes pareilles. Quelques caractéristiques, hein, institution centrale faible et très forte interaction maître, bon, allez, on va y arriver, maître-enseignant. Le système centralisé à la française, donc Condorcet, contrôle top-down, hein, on fait un paix à Paris, tout le monde claque des talons. Système des écoles, donc défiance systématique de l'État envers les universités. Bien sûr, les pays soviétiques adoraient. Ils ont réformé. Hein. Si vous allez maintenant en Hongrie, si vous allez en Pologne, si vous allez en République tchèque, ils sont plus traditionnalistes que les... Ils sont revenus très loin en arrière, mais peut-être parfois un peu trop loin. Et puis le système libéral, bon qu'on dit allemand, que je préfère dire prussien, qui s'articule autour des libertés académiques, qui valent d'ailleurs pour les enseignants autant que pour les enseignés. Je rappelle que dans l'université traditionnelle allemande, un professeur s'adresse à un étudiant en disant « Herr Kollege », « Monsieur le collègue hein ». Tous les acteurs de l'université... L'université est la république des enseignants et des enseignés, dans l'esprit humboldtien. Alors, dans la pratique, il n'y a pas beaucoup de professeurs qui disent « Herr Kollege » à leurs étudiants. Maintenant, on se tutoie même en allemand, mais enfin, quand même. Hein. Donc, liberté académique, unicité de l'enseignement et de la recherche, et pour nous, c'est ce point-là qui est le plus important, puisque nous allons parler de recherche, et une administration qui cherche à être bottom-up. C'est-à-dire que les initiatives doivent venir de la faculté, de l'université, et remonter. Bon, revenons à Bologne. On était parti de Bologne, 1080, les chartes, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, comme je vous ai dit, en 1988, se sont réunis à Bologne les recteurs d'un grand nombre d'universités européennes. et ont voté une charte qu'on appelle Magna Carta Universitatum, bien sûr d'après la Magna Carta anglaise, et qui dit les choses suivantes. L'université est une institution autonome qui produit et transmet la culture à travers la recherche et l'enseignement. Vous voyez Humboldt, hein? Pour s'ouvrir aux nécessités du monde contemporain, elle doit être indépendante de tout pouvoir politique, économique et idéologique. Entends-je un fou rire? Dans les universités, l'activité didactique est indissociable de l'activité de recherche. Là, ce n'est pas un fou rire, c'est une grosse rigolade, hein, qu'on devrait avoir en France. La liberté de recherche, d'enseignement et de formation étant le principe fondamental de la vie des universités, les pouvoirs publics et les universités, chacun dans leur domaine de compétences, doivent garantir et promouvoir le respect de cette exigence fondamentale. Je vous ai mis le texte complet de la charte en annexe, donc ceci sera sur le web, tout le monde peut le lire. Alors le problème français. Mais en un mot, le problème c'est que le système universitaire ne se conforme à aucun des trois principes de la charte. Si vous regardez le site web, il y a un tas d'universités françaises qui l'ont signé. Vous en concluez quoi? Le papier souffre de tout et ne rougit de rien. Raison, eh bien, à mon sens, c'est que l'université française a largement raté le coche des réformes humboldtiennes. Elles n'ont jamais été faites en France. Pourquoi? Parce qu'il y a des écoles, parce qu'il y a la défiance de l'État vis-à-vis de l'université, et donc cette défiance a fait qu'il n'y a jamais eu ce postulat d'unicité d'enseignement et de recherche, et donc, eh bien, on a créé des organismes de recherche, et on verra que c'est ça le problème. Donc, on n'a jamais eu cette conception en France, et donc, pour rester poli, on peine à rattraper le retard et à adopter des structures, à adopter une conception de l'université qui serait celle que l'on a partout ailleurs et qui s'est avérée être la plus efficace. Donc regardons ça un peu en détail, hein, autonomie des universités, vous me permettrez de passer. Hein. Enseignement indissociable de la recherche et les classes préparatoires. Hein. Boîte à bachotage où on ingurgite, on cherche à stocker jusqu'au jour de l'examen et on oublie tout. Les écoles, institutions qui par définition ne font pas de recherche. Les organismes de recherche qui sont incrustés comme autant de cancers, et je pèse mes mots, dans le tissu universitaire. Hein, les laboratoires, instituts, etc., etc., on va y venir. Et les trois libertés, eh bien, elles ne sont pas inscrites dans la Constitution française, elles sont peut-être cachées ça et là dans des lois. Dans la pratique, je vous dirais qu'on n'en voit pas grand-chose. J'ai écrit en d'autres lieux que la seule liberté qui reste un universitaire français, c'est la liberté de ne rien faire. Et beaucoup en usent de cette liberté, malheureusement. Bon, alors regardons un peu ce fameux laboratoire à la française, qui est certainement l'invention la plus pernicieuse qui ait jamais été faite pour la recherche. C'est quoi un laboratoire? Ben, un laboratoire, c'est une chance c'est même pas une personne morale, c'est un espèce de truc où il y a un directeur autoproclamé, nommé, parachuté, on ne sait pas trop, qui détient les cordons de la bourse. C'est ça l'essentiel. Dans ce laboratoire, il y a quoi? Eh bien, il y a des personnels CNRS, par exemple, chez nous, donc qui dépendent du CNRS. Et il y a des personnels universitaires. Unicité de l'enseignement et de la recherche, le laboratoire s'occupe-t-il de recherche? Non. Si, enfin, bon, peut-être de recherche. D'enseignement? Certainement pas. Parce que pour les enseignements, on a l'unité de formation et de recherche. Alors l'unité de formation et de recherche, elle, j'ai jamais vu faire de la recherche. Il y a aussi les écoles doctorales et le département de licence. Unicité. Alors si vous croyez que ça, c'est le bordel, voilà plutôt comment ça se présente. Parce que vous avez des laboratoires comme ceux-là qui sont des laboratoires mixtes, mais vous avez aussi des laboratoires dits propres. Alors ces laboratoires propres, ils dépendent que du CNRS, ou que de l'INSERM, ou que de l'INRIA. Ce qui n'empêche pas qu'il y a dans ce laboratoire des personnels universitaires, qui vont enseigner à l'université, ou peut-être à l'école, ou à l'IUT, qui dépendent pour ce qu'est leur enseignement de l'unité de formation et de recherche, ou de l'école doctorale, qui, elle, doit quelque part chercher à synchroniser les laboratoires, propres et pas propres, et parce que l'unité de formation et de recherche n'est pas capable de le faire, et patati, et patata, et patata, je vous passe les détails. Vous constatez quoi? C'est un total. Hein? D'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça vient de ce que personne n'a une conception de ce que doit être une université. Chacun y va de sa petite arabesque, de son petit truc, de sa petite réforme, de son petit machin. On additionne, on dit, ah oui, ça marche pas, là, l'USUFR, ça marche vraiment. Mais on va faire des écoles doctorales. Donc, il y a 10 ans, Paris a déclaré, on fait des écoles doctorales. Donc, on a dit, jawohl, Herr Minister, on fait des écoles doctorales. On a fait des écoles doctorales. Maintenant, les écoles doctorales, c'est plus bien du tout. On commence à leur retirer des compétences. Parce que c'est le président de l'université qui va déterminer la politique scientifique. Whatever that may be. J'ai abandonné. J'attends la retraite. Donc, l'université est considérée par les tutelles. Quel joli mot, hein, tutelle. Il faut déguster tutelle. Qu'est-ce qu'on met sous tutelle, hein? Les idiots, les handicapés, les vieux, et les universités. Donc l'université est considérée par ses tutelles essentiellement comme une institution d'enseignement. Hein. Ce qui inquiète le ministre, c'est combien d'étudiants on va avoir, si on va leur donner des diplômes, si on ne va pas leur donner des diplômes. Plus on donne de diplômes, meilleur on est université. Un jour, on donnera le diplôme le jour de l'inscription, ça simplifiera tout. La recherche est sous-traitée. Hein. L'université française a inventé, certainement depuis 1945, la sous-traitance. Elle sous-traite la recherche aux organismes de recherche. Et qu'est-ce qu'on sous-traite? N'importe quel industriel vous dira, qu'est-ce que vous sous-traitez? Ben, vous sous-traitez ce qui n'est pas essentiel. Hein? Quelque chose que vous considérez comme votre activité essentielle, core competence, vous le faites. Et ce qui n'est pas essentiel, la fabrication de la soupe ou la maintenance du parc informatique, vous la sous-traitez. L'université sous-traite la recherche. Et donc, eh bien, on distingue, comme je vous ai dit, personnel enseignant, qu'on dit pour la forme enseignant-chercheur, alors à quel euphémisme? Hein, c'est la bonne langue de bois, vraiment, et chercheur. Donc, pour le principe 2, hein, recherche et enseignement, et bon, je ne vous remonte pas la charte de Bologne. Donc, manque total de conception. Hein. On ne sait pas ce qu'est une université, on a une espèce d'usine à gaz où chaque ministre rajoute une arabesque, et plus ça va, et plus c'est bordélique, et moins ça marche. Et plus ça coûte cher. Donc, opaque. Allez, je passe. Le poète ne l'a pas dit, hein, ce que l'on n'en conçoit pas ne s'édifie pas tout seul et le résultat ne peut que se casser la gueule. Eh ben. Hein? Bon, si ce n'était que ça, si ce n'était vraiment que, je dirais, un manque organisationnel résultant de... d'un manque de réflexion. Bon, les scientifiques sont des gens très flexibles. Hein. Les scientifiques, ils ont une envie, c'est de faire de la recherche, éventuellement d'avoir de bons étudiants. Le problème pourrait être contourné, mais il ne le peut pas parce que le problème de l'université française est encore plus fondamental que ça. Et il est que, eh bien, on n'a pas réalisé en France que la recherche et l'enseignement sont des activités individuelles. C'est pour ça que j'ai souligné tout à l'heure l'approche protestante, ou si je suis en Asie, je dis confucéenne de Humboldt, de miser sur la responsabilité individuelle. En France, il y a une défiance systématique de l'individu. L'individu est soit un escroc, ou les deux. Donc, il faut lui mettre le harnais, il faut le contrôler. Il ne faut surtout pas qu'il puisse faire quelque chose. Les seuls qui éventuellement peuvent faire quelque chose, c'est les copains et les coquins, qu'on a quelque part dans la main, hein, sur lequel on va pouvoir influer, exercer des pressions si nécessité. Et donc tous les moyens financiers sont axés sur des institutions contrôlées par monsieur le directeur dont j'ai expliqué comment il était fait monsieur le directeur et dont on vient de voir la pertinence. Un petit exemple. Alors, je sais pas si Sud-Ouest l'a écrit ou non, hein. En France, quand on va vous parler d'une découverte scientifique, vous allez lire le laboratoire de machin chouette, éventuellement de l'école nationale supérieure de, hein, a découvert le fil à couper le beurre. Monsieur le directeur a bien voulu. C'est le laboratoire qui a découvert. n'est pas X et Y, le thésard sur sa paillasse, c'est le laboratoire qu'a découvert. Partout ailleurs dans le monde, vous lisez, le professeur Trifon Tournesol et son équipe de l'université de Boulinsart ont découvert la machine à brosser les vêtements. Il l'a vraiment découvert. Le professeur Tournesol nous a dit que. Donc, vous regardez n'importe quelle brochure, publicité, propagande, introduction, etc. En France, on vous dira le laboratoire, l'institution A. Partout ailleurs, on vous dira c'est X et Y qui ont. Et donc, la vraie réforme qu'il faudrait faire en France, c'est qu'il faudrait que l'institution soit au service de l'individu et pas l'inverse. Et l'individu, c'est-à-dire l'universitaire, le chercheur, autant que l'enseignant, qui doivent être le même, comme on l'a vu, et de l'étudiant. Je n'exclus nullement les étudiants de tout ça. Les étudiants français sont totalement embrigadés, ils n'ont aucun choix, ils ont des filières. Rien que ce terme de filière, on voit cette espèce d'entonnoir qui les met dans un fil là, où ils sortent goutte par goutte en bas. Ça n'a rien à voir avec des études universitaires. Qu'est-ce que j'ai été heureux pendant mes études? J'aurais jamais souffert un truc d'être lié pieds et poings là, et d'avoir à faire ceci, à faire cela. Je choisissais librement mes cours. Et une fois que j'avais l'impression d'avoir suivi suffisamment de cours, j'allais voir mon professeur et je lui disais, je voudrais passer mon examen. Le professeur regardait son agenda et disait, bon, venez le 25 février à 15h et je vous fais subir une heure d'interrogatoire, pas sur le cours X et sur le cours Y, mais sur la physique théorique, sur la chimie organique. Sur... Donc il faudrait que l'institution soit au service de l'individu et non pas l'inverse. Ça serait vraiment un changement total de paradigme en France. Et à mon avis, c'est pas demain la veille qu'on verra ça. On en est très très loin. Parce qu'on est dans des institutions bétonnées, tous les conseils de ces institutions sont élus selon des modes dont la seule raison d'être est d'éviter tout changement. Je me rappelle l'horreur que j'ai eue quand j'ai découvert avec un autre collègue allemand ici que pour des institutions scientifiques, pour des conseils scientifiques qui se disent capables de porter des jugements de valeur scientifiques qui auront une influence sur la carrière des gens, eh bien les élections se faisaient sur des listes bloquées syndicales. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien donc demain après-demain, bon, dans l'idéal, si tout était au mieux dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, on commencerait par séparer totalement les agences de recherche de l'université. On créerait des agences de moyens pour qu'il y ait des financements individuels. Si je veux avoir un thésard, je fais une proposition, un proposal, je l'envoie à une agence de moyens qui l'évalue, je l'espère, aussi honnêtement que possible, qui me dit si ça vaut la peine d'être financé, oui ou non. Ça devrait durer entre 4 et 6 mois. Ici, les collègues allemands me disent toujours « Pourquoi tu ne fais pas de proposal ?» Pourquoi tu ne fais pas de proposition? Je dis, je peux toujours en faire, je peux noircir du papier, il n'y a personne à qui je peux l'envoyer. Bon, le problème des recrutements, on en a parlé. Création de vraies facultés, d'avoir vraiment des instances centrales qui contrôlent et l'enseignement et la recherche. Une sérieuse cure d'amaigrissement, ça ne fait aucun doute que l'université est comme une grenouille, elle est gonflée de filières professionnelles, professionnalisantes, prof ceci, prof cela. Il y a les IUT qui sont des institutions excellentes, mais qui n'ont absolument rien à faire à l'intérieur de l'université. Les universitaires les font, nous. Pourquoi ne pas leur donner leur indépendance? Ces gens sont capables de se gérer eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de dépendre de la commission des spécialistes de l'université. Ils savent très bien comment faire le travail qu'ils font d'ailleurs très bien vu les conditions qui existent. Les IUP, enfin, je passe, dégraissé. Voilà comment est structurée une université normale. Vous avez l'université, à l'intérieur des universités, vous avez le département, ou la faculté, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et à l'intérieur des départements, il y a les groupes du travail, en général dirigés par un professeur. La faculté, le département crée un cadre, gère les locaux, s'occupe des enseignements, donne certains financements, surtout aux jeunes. Si vous voyez, toute bonne université américaine, quand ils embauchent un jeune professeur, Il a un financement. La moindre des universités suisses, voulant embaucher un professeur extraordinaire, donc la plus basse classe des professeurs, met 1 million de francs suisses sur la table, à peu près autant de dollars à l'heure actuelle. Ça peut être simple, hein, rappelez-vous comme c'est ici. Hein, vous préférez ça? Vous préférez ça? Le choix ne semble pas difficile. En somme, si je résume tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut responsabiliser les gens à tout niveau. La responsabilité, c'est quelque chose qui ne se partage pas, à mon avis. La responsabilité est toujours individuelle. Alors, responsabilité, ça veut dire aussi subir à toutes les conséquences de toute décision, bonne comme mauvaise. Il n'y aura pas la nanny à Paris qui ira repêcher les petits copains s'ils se sont plantés. Et ça, c'est vrai pour les universités aussi. Hein. L'université qui prend les mauvaises décisions, eh bien, elle perdra sa renommée, elle perdra son ranking, elle sera tout simplement moins bonne que les autres. Hein, c'est une vaste illusion de croire que toutes les universités sont égales. Chance de voir ceci se réaliser en France, on l'a vu récemment, je pense que je ne m'avance pas beaucoup en disant que ça approche zéro de très près. Et donc, ma conclusion, première, splendeur de la recherche universitaire, ça sera pour les autres. Misère de la recherche universitaire, ça reste pour nous. Ça n'a rien à voir avec la recherche, ça a à voir avec le fait que nous n'avons pas d'université. Je résume, la France a largement raté le coche de l'université moderne. Elle a donc un système dit universitaire qui ne l'est pas. L'organisation résultant de ce manque de concept est centralisée, étatique, byzantine, déresponsabilisante, infantilisante, a dit Postel-Vinet, et ça pour tous les acteurs. Ceci est bien connu. J'ai ici je ne sais combien de rapports qui disent tous la même chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le moindre courage politique pour mettre en œuvre la cure nécessaire. Et ce n'est pas les réformettes que nous voyons à l'heure actuelle qui y changeront rien. Que vous remplaciez un dictateur rond de cuir au ministère à Paris par un dictateur président à l'université ne changera absolument rien. Que vous mettez 60 pingouins ou 20 ou 30 ou je ne sais pas combien dans le conseil d'administration ne changera rien. De toute façon, si l'université était vraiment autonome, c'est elle qui déciderait A, si elle veut avoir un conseil d'administration, et B, combien de gens et qui elle veut y mettre dedans. C'est pas Paris. Alors, ce qui est encore plus grave, il me semble, c'est que même parmi les universitaires, eh bien, personne ne veut vraiment une réforme de fond. Hein? Les gens sont fonctionnaires, il n'y a eu aucune mobilité. Ils ont fait maternelle Bordeaux, école primaire Bordeaux, collège Bordeaux, lycée Bordeaux, études Bordeaux, doctorat Bordeaux. Peut-être ils ont fait 6 mois de postdoc à Toulouse, hein, peut-être 1 an. Ils sont revenus maître de conf à Bordeaux, retraités bordelais. Comment voulez-vous, dans un tel cadre, faire des réformes qui seraient, il faut l'admettre, excessivement difficiles? Donc, j'en reviens à ce que je vous ai dit au début, et je pense que je vous ai montré que bien les auteurs de ce livre n'exagèrent nullement. La structuration même de l'enseignement supérieur fait obstacle à la réalisation de l'idée d'université. Ou l'inverse, le manque d'idée d'université fait que la structuration est un désastre. Ou tout simplement, il n'y a pas d'idée d'université en France. Pourquoi la France n'a pas d'université? Dernière citation, j'espère vous l'avoir montré. Bon, ça c'était pour demain, pas très brillant, après-demain. Alors comme je vous ai dit, hein, l'Europe n'est pas seule dans le monde. La France est un petit rien au bout d'un cap du continent eurasien. Les autres ne vont pas attendre que la grande nation veuille bien se décider à faire des réformes. On fera comme pour les dinosaures. Mécaniquement, de toute façon, la part de création issue des sociétés occidentales va diminuer. Je dirais que ceci est même un but désirable. Le problème, c'est que même parmi cette partie diminuante de création intellectuelle, qui est aussi une création de richesse, hein, il ne faut pas le nier, eh bien, la part de la France disparaît. À l'heure actuelle, alors suivant comment vous calculez, hein, la France pèse entre 3 et 3,5% de la production scientifique mondiale. Si ça venait à disparaître, qui s'en rendrait compte? Alors on a parlé du vote avec les pieds. Hein, on a dit qu'à Bologne, ça chauffait et les étudiants partaient ailleurs. On vote aussi avec les pieds aujourd'hui. Seulement, c'est pas qu'on part ailleurs, c'est qu'on ne vient plus. Hein? Vous regardez où vont les étudiants de Chine, d'Inde, d'Asie, du Sud-Est, de Singapour, de Malaisie, etc., etc. Eh bien, malgré Bush, ils veulent toujours aller aux États-Unis. Et pourtant, Dieu sait qu'on leur en fait voir. Ça vous dit le prestige de ces universités. Ceux qui ne peuvent pas aller aux universités américaines ou qui ne veulent pas, ils vont où? Eh bien, ils vont en Angleterre. Ou même en Allemagne ou au Canada. Récemment, je ne regarde pas souvent la télévision, mais j'ai appuyé sur le bouton, et il y avait un ministre français, je ne me rappelle plus lequel, qui était en visite en Inde et qui s'étonnait que l'Inde envoie 10 fois plus d'étudiants en sciences de l'ingénieur en Allemagne qu'en France. Monsieur le ministre était entièrement perplexe. Je suis perplexe que le ministre soit perplexe. Mais comme d'habitude, hein, tout va très bien, madame la marquise. Alors de quoi je ne vous aurais pas parlé? Ben, je ne vous aurais pas parlé des jérémiades traditionnelles sur le manque d'argent. Parce que le budget recherche de la France est relativement honorable. Il n'est pas brillantissime, mais il se classe honorable parmi des pays comparables, si vous comptez PIB par habitant ou d'autres critères de ce genre. Le problème, c'est qu'il est gaspillé. Il ne va pas aux universités, il va aux écoles, il ne va pas aux universités, il va aux organismes de recherche. Je n'ai pas à vous rappeler la gabegie du CEA, par exemple, une catastrophe. Jérémiade traditionnelle sur le manque de postes. En fait, il y a beaucoup trop de postes à l'université. Je précise, il y a beaucoup trop de postes permanents. Par nombre d'étudiants, je connais la chimie bordelaise, je connais la chimie à d'autres universités, pour le même nombre d'étudiants, nous sommes 2 à 3 fois plus d'enseignants permanents à Bordeaux qu'à Darmstadt, à Aix-la-Chapelle, qui est quand même pas une très mauvaise université, hein, classée parmi les premières d'Allemagne. Donc, tout ceci sont des points importants, mais ce sont des points secondaires. Ce n'est pas là le principal. Le principal, c'est que, eh bien, l'université en France, c'est un mot, mais ce n'est pas une réalité. Donc, je vous présente le saint patron de l'université française. Je pense qu'on devrait l'afficher à peu près partout. Hein, le prince Grigori Alexandrovitch Potiomkin, ou Potiomkin pour les Russes, qui est connu pour quoi? Eh bien, pour avoir érigé des façades et les avoir promenées pour épatrer sa reine et maîtresse, Catherine II, et lui faire croire qu'il y avait une réalité. Je termine en remerciant Jan-Peter Mikkelbust, avec qui j'ai beaucoup échangé sur les programmes de doctorat en Europe, et qui a attiré mon attention sur cet ouvrage, et The Royal Gold Jubilee Program thaïlandais, qui m'a invité pour faire un exposé sur le programme Erasmus, et pourquoi il marchait ou marchait pas, ce qui a été pour moi la première occasion de réfléchir à tous ces problèmes et en fait à cette diversité européenne et pourquoi un modèle s'était imposé vis-à-vis d'autres. Et finalement, Jean-Marie de l'Université Bordeaux 2. Eh oui, 2. Je vous remercie.